grenade.
En autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe aux vermicelles. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parle, un tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, l'élu immédiatement chef du gouvernement.
Bonjour, monsieur le restaurateur. Je m'appelle Bob. Je suis le représentant de la saline du village d'à côté. Je voudrais savoir, on vous a envoyé récemment quelques échantillons pour vous faire déguster notre merveilleux sel. Et j'aimerais savoir si vous le proposez sur votre carte. Vous avez un menu nem pour les Chinois et vous servez aussi le célèbre potage Bégatop. Mais je voudrais savoir... Le serton ici, notre sel. Le serton ici, notre sel.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Sipis Passem, comme tous les premiers jeudis de chaque mois, est animé par moi-même, votre serviteur Ariel, et par Elsa.
À votre service également. Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs.
Sipis Passem est la voix de la de l'Union pacifiste, qui lui-même est l'organe de l'Union de la section française de l'Internationale des résistants à la guerre. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante, boîte postale UPF, boîte postale 40-196. 75 624 Paris Sud-Est 13 pour vous abonner au journal et aussi avoir une carte de membre de l'Union pacifiste. L'abonnement pour le journal papier est de 30€ pour une année et l'adhésion à l'UPF 25. Donc ça nous fait environ 55€. Et ça nous aidera énormément pour qu'on puisse continuer à faire un beau journal mensuellement. Et des fois, il sort tous les deux mois, faute de... c'est pas qu'il manque des informations, mais les gens aussi prennent des vacances. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons un programme assez chargé. Voilà. Je vais vous lire l'édito de Yves Locard. Guerre niquée. Il y a un lapsus. Voilà. Ah non, C'est toi qui devais commencer ?
Non, papa. Vas-y.
Voilà, excuse-moi. Voilà. L'argent, dit-on, est le nerf de la guerre. Car la guerre a du nerf, mais jamais assez. Elle a faim, la guerre. Elle a soif, la guerre. Il faut du nerf, de la viande, du sang. Elle a besoin d'argent, mais d'agents aussi. Des gens, beaucoup de gens, pour faire beaucoup de sang, beaucoup d'absents. Et les gens sont tout prêts à lui donner du sang, de la viande, du nerf, amer ce nerf. La guerre a besoin de mercenaires. Les gens sont tout prêts à lui rendre service à la guerre. Sont serviables, les gens. Serf, viable. Obéissant, oui, c'est encore possible à notre époque de mourir pour la patrie, de mourir pour un bout de terrain, de nourrir de son sang quelques arpents. Comme il n'avait rien de plus précieux, rien de plus urgent à faire, les gens, la guerre a besoin d'eux, paraît-il. On répond présent, et l'on suit et l'on essuie les tirs, les torts, les tares, les tsars. Et le sang coule, et les puissants roucoulent, et la roue tourne, comme la terre qui tourne et qui tourne avec ses grands ruisseaux de sang. C'est Prévert qui écrivait cela en 1936. Il en a coulé du sang sous les ponts depuis cette époque 36. Ça ne vous dit rien ? Des manifs, des gens dans la rue pour défendre leurs droits. Et là, encore, l'eau a beau couler sous les ponts, le respect de l'humain n'avance qu'à petits pas. Le peuple est dans la rue aujourd'hui, encore, car le monde se paye sa tête. Tiens, encore du Prévert, encore des paroles. Mais s'il ne peut rien contre ce monde, le peuple, il peut s'unir, il peut se lever ensemble, tous ensemble, ouais, et montrer et gueuler son désaccord. Aujourd'hui, il s'agit des retraites. Hier, c'était les congrès. Toujours les conditions de travail, les conditions de vie. Il s'agit d'acquérir de nouveaux et légitimes droits et ou de défense, bec et ongles, les acquis que les nantis, les rentiers, les anti-émeutiers voudraient rogner. Et le peuple est dans la rue. Chaque fois que nécessaire, le peuple doit se lever. S'il peut se lever pour défendre des droits sociaux absolument légitimes, que ne se lève-t-il pour défendre un autre droit tout aussi légitime, tout aussi capital, tout aussi vital, celui de vivre en paix. Celui d'avoir la paix, non seulement la paix intérieure, tant à la mode, non seulement la paix dans son pays, mais aussi dans tous les pays. Imagine, comme le chantait le pacifiste John Lennon, « All the people » dans le monde entier, à l'instar du peuple, femme en tête, comme en Iran, envahissent les rues, les boulevards, tous les Champs-Élysées du monde avec des pancartes, des bannières, des slogans pacifistes. Imaginons ce rêve. Quand comprends-tu le peuple, le popolo, que ton ombre leur fait peur, que tu es le plus fort si tu réagis, si tu agis, si tu existes, si tu résistes, si tu dis non. C'est bien pourquoi ils aiment mieux te voir au boulot, au bout du rouleau, à la chaîne, à la machine, là où tu n'as plus le temps de penser, de réagir, de désobéir. Et la cause de la paix est bien aussi importante que des questions de retraite, de salaire, de niveau de vie. Alors que l'empereur et sa clique, lequel réussit l'exploit au nom de la démocratie d'être seul quasiment face à une majorité d'opposants et de bafouer ce peuple en colère, de l'ignorer, de le piétiner, de le laminer, alors que l'empereur, le prince, l'usurpateur, le squatteur du pouvoir, Manu Militari, se permet de doter l'armée de plus de 40 milliards d'euros. 40 milliards de trop qui suffirait à financer les retraites, les écoles, les hôpitaux, voire la culture, alors que des artistes n'ont d'autre secours que de se mettre en grève de la faim, sinon de la faim, F-I-N, pour sauver leur outil de travail. Tel Richard Martin, directeur du théâtre Tourski à Marseille. Alors que des familles entières sont sans abri et couchent sous les ponts, plus de 100 ans après le constat de Monteius, avant qu'il ne tourne la jaquette, alors que tous les travailleurs, les citoyennes et les citoyens n'en peuvent plus de ce mépris, de ces injustices, de cette inégalité, de ce pouvoir qui les considère comme des pions qu'on place et déplace à sa guise, qu'on envoie au front au gré des besoins, des finances, ce même peuple continue de mettre au pouvoir, par défaut ou par défi, sinon par dépit, les pires pitres de la terre. Et la terre, de quoi elle a besoin ? C'est elle qui récolte dans son grand corps que les hommes ont baptisé champ d'honneur pour pouvoir y coucher tous les sacrifiés, tous les héros de la guerre à réclamer, rétamer, dégommer, gommer. Alors la terre tremble, la terre a peur, secouée par toutes ces folies des hommes, et où prétendue-t-elle ? Elle tremble car ces hommes la font trembler, comme ils font trembler le monde. Et le nerf de la paix, c'est quoi ? C'est l'art, Jean. L'art qu'on brime, que l'on réprime, que l'on supprime, s'il chatouille d'un peu trop près le pouvoir en place. La paix, c'est l'art, Jean. Et les gens, pas les gendarmes, les gens purs, les gens vrais, les gens aux mains nues, les gens humains, ceux qui vivent, ceux qui sont, ceux qui luttent pour la paix, qui n'ont pas besoin d'armes pour compenser leur faiblesse, leur lâcheté. L'argent est le nerf de la guerre, l'argent est le nid de la guerre. C'est toujours pour l'argent, pour l'or, pour l'heure. Et l'Union pacifiste qui défend la paix, qui prône la paix, a du nerf, elle aussi, et de l'énergie. Au besoin de nerf, d'énergie, d'énergumène, à même de l'appeler, cette paix que tout le monde souhaite, et pour cela, il nous faut de l'art, des gens et de l'argent aussi. À vos poches, prêts, partons. Alors, vas-y.
Voici l'édito de Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France, du journal La Bannière. Les pollueurs et le temps qui passe. Alors que les alertes des scientifiques se multiplient et ne cessent d'accroître notre inquiétude, les mesures prises par les pouvoirs publics continuent d'être bien trop faibles et s'appliquent bien trop lentement. Et pendant ce temps, les grands pollueurs jouent la montre. Total Energy et d'autres mastodontes des énergies fossiles n'arrêtent pas de répéter qu'il faut continuer à chercher de nouveaux gisements de pétrole et de gaz, car la demande est là. Pire, c'est au nom de la transition énergétique que d'autres industriels poussent pour aller racler les fonds marins et récupérer à bon prix les minerais dont nous aurions besoin pour les batteries des véhicules électriques qui s'apprêtent à l'emporter sur le marché mondial. Seules des politiques publiques ambitieuses peuvent nous aider à rattraper notre retard. La régulation par les pouvoirs publics est plus que jamais nécessaire pour transformer l'offre énergétique. Si l'on attend que la demande en pétrole s'arrête pour fermer les puits, alors on en reparlera dans 2 siècles encore. Et si la transition énergétique, qui reste nécessaire, n'est pas contrôlée et encadrée par des gouvernements vigilants, alors nous nous réveillerons en 2050 avec de nouvelles crises environnementales concernant les océans et l'approvisionnement en ressources naturelles. Les problèmes du nouveau monde viendront non pas remplacer ceux de l'ancien, mais s'y ajouter.
Dans Paris, Paris dégoûtant, seuls les rats sont contents. Ils savent qu'ici les véganes pas idiots les nourrissent qu'avec du bio. Pour traverser les tranchées, les travaux, c'est pire que le col de Roncevaux. Les déjections qui fleurissent les trottoirs décorent ce grand dépotoir. Pauvre Paris, Paris enlaidi, dans quel état ils t'ont mis. Ils avaient promis Nirvana, et c'est la Bérésina. Où es-tu Paris, lumière des cités, qui était de la France la bergère, quand les crétins frappés de cécité firent de toi une pétaudière. Les plastocs jaunes, les affreux bitoniaux qui bornent les pistes à vélo, les plots de béton, piétons, pans du star, sont d'authentiques œuvres d'art. Pauvre Paris, Paris en lady, toi qui fus le paradis, te voilà fringué Waterloo par nos gentils écolos. Y'en a qui écrivent des conneries sur les murs, ceux qui ont rêvé d'être Arthur, et d'autres qui se prennent au feutre ou au pinceau pour Baudelaire ou Picasso. Rue de Rivoli, devenue rue de Rivello, l'ambulance a du boulot. Ça grille les feux, vélos et trottinettes, au carrefour font des omelettes. Dans Paris, l'hiver comme l'été, on touche pas à la saleté. Les vieilles télés, les tonnes de détritus s'empilent gaiement dans les rues. Pauvre Paris, devenu si cracra, on sait bien qui t'a fait ça. C'est des crânes de piaf, des gourdis qui bouffent des graines à la mairie. Dans Paris, Paris rapiécé, c'est la mocheté qui est passée. Les bancs publics et les fontaines Wallace, c'était pas si dégueulasse. C'est à Barbès, la chapelle, Stalingrad, qu'on trouve les squats les plus crades. Et dans les squares où plus un enfant joue, y'a que des seringues et plus de nounous. Dans Paris, Paris dégoûtant, oui, seuls les rats sont contents. Et le Paris du grand Charles outragé, c'est un Paris saccagé.
Voilà un extrait du nouvel album de Pierre Perret, Paris saccagé. Et vraiment, là, il est très très fort. Voilà. Je vais vous lire un texte de Mediapart à propos du texte la défection des nouveaux projets des retraites. Voilà. Le texte est signé Nicolas Mathieu. Aujourd'hui, à l'issue de cet épisode lamentable de la réforme des retraites, que reste-t-il d'Emmanuel Macron, de ce pouvoir si singulier, sorti de nulle part, fabriqué à la hâte, Tex Force, en mission libérale, qui a su jouer du rejet de l'extrême droite et de la déconfiture des forces anciennes pour implémenter son projet dans un pays où si peu de citoyens en volent. Que reste-t-il de ce pouvoir, de son droit à exercer sa force, à faire valoir ses décisions? Que reste-t-il de sa légitimité? Bien sûr, au printemps dernier, les élections ont eu lieu. Des scrutins ont porté un président à l'Élysée, des députés à l'Assemblée, une première ministre a été nommée, un gouvernement mis en place. Tout cela a été accompli dans le respect de la loi. Les institutions ont fait leur lourd travail de tri, d'établissement, et assis sur leur trône, ces maîtres d'une saison. Je crois qu'il y a eu beaucoup de saloperies qui sont passées. Qu'est-ce que tu en penses ?
Oui, mon opinion, c'est que il y a eu un trifouillage. Voilà, lors de l'élection présidentielle.
Et même à l'Assemblée nationale aussi.
À l'Assemblée nationale. De toute façon, Elisabeth Borne a été mise d'office sans passer par le vote de confiance. Et ça c'est anti-démocratique.
Alors, bien sûr, la République est toujours là, avec ses ors, son ordre vertical, sa police, son droit, ce roi bizarre à son sommet une constitution qui exécute ses caprices, des fondations qui plongent dans 2 siècles et demi de désordre et de guerre civile. La machine tourne, légale, indiscutable, aux yeux des juristes, chaque rouage à sa place, placide, sous le drapeau. Mais la légitimité, elle, n'est pas d'un bloc. Elle se mesure, se compare, se sous-pèse. Que dire d'un président élu 2 fois, mais sans peuple véritable pour soutenir sa politique de manager, ce faiseur de fric et de retraite et de retraités distraits, son régime de cadres sup et de consultants surpayés, un président élu 2 fois avec les voix de ses adversaires qui l'ont moins soutenu qu'utilisé pour faire obstacle au pire, un président qui n'a même pas eu droit à un quart d'heure d'état de grâce en 2022. Il était toujours à l'étranger à ce moment-là. Que dire d'une assemblée sans majorité arrivée 1 mois plus tard et dit à elle seule, par ses bigarrures, toute la défiance d'un pays, le refus large, immédiat d'un programme et des lemmings présidentiels qui s'étaient largement illustrés pendant 5 ans par leur suivisme zombique et un amateurisme qui aura été la seule vraie disruption de leur mandat. Que dire d'un gouvernement qui porte des réformes auxquelles il croit à peine, qu'il fait passer au forceps du 49-3, qui cafouille et s'embourbe, infoutu de discipliner ses troupes, incapable d'agréger les alliés qui lui manquent. Ce pouvoir est légitime comme la terre est plate, c'est-à-dire relativement à la place d'où l'on regarde. Il est légitime comme un zapatiste, c'est-à-dire fort peu. Que dire de ce pouvoir assis sur une noisette d'assentiment et qui gouverne comme, après un plébiscite, méprise les corps intermédiaires, la rue, les salariés, l'hôpital, l'école, reçoit en pleine crise sociale Jeff Bezos pour le médailler, alors qu'il n'aurait pas daigné entendre ceux qui l'ont porté là. Ce pouvoir qui ne peut considérer le bien commun qu'au prisme de la performance collective, qui a substitué les nombres aux vies, qui confond dans sa langue de comité exécutif le haut, le bas, la droite, la gauche, le prochain, le lointain, qui ment sans honte et croit tout surmonter en assumant ce pouvoir est légitime comme la terre est plate, c'est-à-dire relativement à la place d'où l'on regarde. Il est légitime comme un zapatiste, c'est-à-dire fort peu. Il est légitime comme Nixon après le Watergate, c'est-à-dire de moins en moins. Il est légitime mécaniquement en vertu des textes de la solidité de nos institutions, mais il a perdu ce qui donne vie à la vraie légitimité politique en démocratie, un certain degré d'adhésion populaire. Et ce dernier passage renforce ce 49-3 qui était prétendument exclu s'il n'empêche pas de demeurer en place et de mener ses politiques achève de le discréditer tout à fait. De ce pouvoir, nous n'attendons désormais plus rien, ni grandeur, ni considération, et surtout pas qu'il nous autorise à espérer un avenir admissible. Nous le laissons à ses chiffres, sa maladresse, et son autosatisfaction. Plus un décret, plus une loi, une promesse ne nous parviendra sans susciter un haussement d'épaule. Ces grandes phrases, ces coups de menton, nous n'y prendrons plus garde. Ce pouvoir, nous le laissons à ses amis qu'il sert si bien. Nous lui abandonnons ses leviers qu'il s'amuse. Son prestige n'est plus. Nous avons toute l'histoire pour lui faire honte. Pourtant, malgré la consternation que nous inspire la situation actuelle, on rêve d'attraper par le bras un député ou une sénatrice, un directeur de cabinet ou une ministre pour lui demander, dans un couloir, dans un murmure, un regard, « Vous vous rendez compte ? Êtes-vous seulement conscient de ce que vous avez fait ? Savez-vous quelle réserve de rage vous venez de libérer ? Avez-vous pensé à ces corps pliés, tordus, suremployés, qui trémeront par votre faute jusqu'à la maladie, jusqu'à crever peut-être. Avez-vous pensé au boulevard que vous avez ouvert devant ceux qui prospèrent sur le dépit, la colère, le ressentiment ? Avez-vous songé à 2027 et aux fins de mois dans les petites villes, les quartiers, aux électeurs hors d'eux et aux amertumes meurtrières, au plein d'essence et à la difficulté d'offrir des vacances à ces gosses, à ces gens si mal soignés, à ces enfants qui ne seront ni médecins, ni avocats, parce qu'en première, ils n'ont pas pris la bonne option. Savez-vous qu'ils vont mourir un peu plus de votre main ? Et d'ailleurs, l'argent coule à ne plus savoir qu'en faire. Ces femmes dans les hôtels qui récurent les chiottes et font les lits, ces ouvriers en 3-8, ces conducteurs aux horaires décalés, les routiers, les infirmières, les assistantes maternelles, celles et ceux qui font classe à des enfants de 3, 4 ou 5 ans, les petites mains dans les papeteries, les employés dans les open space, stressés jusqu'à la moelle, déclassés par chaque nouvelle génération qui sait mieux le numérique et la vitesse. Les hommes qui mourront tôt et leurs veuves, ces copains aux yeux lourds qui trinquent au bistrot après 12 heures de taf en bleu de travail, de la peinture ou du cambouis sur les poignes, et les femmes qui prennent le plus cher une fois parce que mère parce que femme, ces milliers de gens qui font des cartons dans les entrepôts Amazon, y avez-vous pensé ? Avez-vous vu que, comme vous, ils n'ont plus qu'une vie et que les heures qui ne sont pas seulement les données ajustables d'un calcul qui satisfait votre goût des équilibres et les exigences arithmétiques des marchés, savez-vous qu'ils vont mourir un peu plus et de votre main qu'ailleurs, l'argent coule à ne plus savoir qu'en faire. Avez-vous pensé à ce monde sur lequel vous régnez et qui n'en pouvait déjà plus d'être ? Continuellement rationné, réduit dans ses joies, contenu dans ses possibilités, contraint dans son temps, privé de sa force et brimé dans ses espérances. Non, vous n'y avez pas pensé. Et ce monde-là est une nappe d'essence, et vous n'êtes que des enfants avec une boîte d'allumettes. Nicolas Mathieu.
Bravo. Bravo.
À toi, c'est un texte.
Oui, toujours de Mediapart. Et il complétera bien avec l'autre que tu viens de lire. Il s'agit du projet de loi de programmation militaire 2024-2030. Un pas de plus vers une économie de guerre parasite et dangereuse. Et accrochez-vous, chères auditrices, chers auditeurs, parce qu'au niveau de l'hypocrisie, vous allez en avoir plein la figure. Pour peser sur le débat public, actuellement dépendant d'un discours sécuritaire qui tend à devenir hégémonique, il importe que le mouvement social s'empare des questions de défense et de vente d'armes, exhorte de nombreux acteurs associatifs. Un train peut en cacher un autre. Au moment où la loi sur les retraites requiert l'attention du mouvement social et qu'un énième projet sur l'immigration mobilise les organisations de défense des droits des migrants-migrantes, le gouvernement prévoit de faire voter une nouvelle loi de programmation militaire. Du fait de cette stratégie de choc, ce projet risque de passer inaperçu. Le déficit de contrôle démocratique est accru puisque l'actuelle loi se poursuit jusqu'en 2025. Sans bilan de ce qui est en cours, dans un contexte géostratégique de plus en plus tendu, l'objectif déclaré est de s'adapter aux risques de conflits inter-étatiques majeurs de haute intensité. Ajouté au retrait des corps expéditionnaires du Mali et du Burkina Faso, retrait imposé par les peuples et leurs gouvernements, et à la dénonciation des accords de coopération militaire datant de 1961, cette situation devrait amener un vrai débat dans le pays. Le président Macron, chef des armées, demande une augmentation qui aboutit, en faisant la somme des deux lois, 2018-2025 et 2024-2030, au doublement de leur budget et à l'instauration d'une économie de guerre. la hausse budgétaire en Allemagne est inférieure, approximativement de 100 milliards d'euros. Il est vrai qu'à la différence de la France, ce pays voisin n'a plus d'empire à gérer. Cette option vient opposer un refus au secrétaire général de l'ONU au moment où Antonio Guterres énonce une priorité, le droit à la paix. Une paix dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international. Citation. L'invasion de l'Ukraine par la Russie inflige des souffrances indicibles au peuple ukrainien et a de profondes répercussions mondiales. Attention, cela dit, aux deux poids et deux mesures. La cristallisation du monde occidental sur cette guerre n'est pas suivie par le reste du monde qui s'interroge sur le rôle de l'OTAN depuis la fin de la guerre froide et qui conserve le souvenir de la destruction de pays tels l'Irak et la Libye dans l'indifférence générale. Nous devons exiger de nos gouvernants qu'ils prennent les moyens de refuser les politiques de puissance de tous les côtés et de construire un nouvel agenda pour la paix. Et quel bilan tirer des opérations extérieures au Sahel, si ce n'est celui de leur échec à réduire le terrorisme islamiste? Cet échec légitime le soupçon d'une stratégie d'occupation pour d'autres motifs, notamment de type économique. Outre le développement de la misère sociale, la politique extractiviste et prédatrice, au Niger par exemple, met en danger les écosystèmes. La responsable altermondialiste, Aminata Traoré, plaide depuis 2013 pour des négociations avec les factions rebelles. Ces annonces budgétaires, plutôt qu'un lobby militaro-industriel pléthorique, exemple Thales, Safran, Naval Group, Dassault, Airbus, etc., seraient utiles pour les chômeurs dont les droits ont été réduits drastiquement dans la dernière période, pour une éducation nationale, une université et un secteur de la santé de plus en plus en déshérence pour les régimes des retraites, etc. La loi sur les retraites prévoit que le statut spécial des militaires comme des policiers soit maintenu, accrochez-vous bien, partir plus tôt à 57 ans, voire 52 pour les policiers, alors que d'autres régimes sont remis en cause et qu'un important effort supplémentaire est demandé aux salariés. Franchement, de qui se moque-t-on? Au nom de l'équité, la légitimité ou non de ce traitement spécifique des secteurs régaliens, spécialistes du maintien de l'ordre et de la défense, est à mettre dans le débat public. Une économie de guerre. N'est-ce pas une économie parasite au service de la stratégie unilatérale de l'OTAN et de l'Union européenne, c'est-à-dire d'une vision du monde étroitement occidentaliste? Dans une période marquée par le regain des nationalismes, souvent au mépris des systèmes démocratiques, ce serait un choix périlleux. Et comment légitimer ce choix de défense nationale, alors que les gouvernements successifs depuis le mandat Hollande, Le Drian démultiplie les ventes d'armes, en particulier à des dictatures du Moyen-Orient, responsables de la répression du printemps démocratique arabe, ou des guerres meurtrières, en Égypte, Arabie Saoudite, pour ne citer qu'elles. Ce choix de production est-il compatible par ailleurs avec le principe d'un développement durable qui impose de limiter l'accumulation des biens inessentiels? Pour peser sur le débat public, actuellement dépendant d'un discours sécuritaire qui tend à devenir hégémonique, il importe que le mouvement social s'empare de ce sujet. Pour le rejet de ce projet de loi de programmation militaire en l'état, dans son objectif budgétaire notamment. Pour la démocratisation du débat public sur les questions de défense et de vente d'armes et une meilleure implication du Parlement. Pour le respect des prérogatives des États africains et l'arrêt des opérations extérieures au Sahel. Pour le soutien à la résistance des peuples contre tous les impérialismes, y compris russes, israéliens, chinois, etc. Pour un débat sur le maintien ou pas de la France dans l'OTAN. Pour un débat sur la défense européenne et le renforcement dans l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Pour la promotion d'une vraie diplomatie internationale, notamment dans le cadre de l'ONU, qui favorise l'accès à une mondialisation multilatérale et pacifiée. pour un renforcement des moyens donnés à la résolution non violente des conflits et à la défense civile non violente. Pour l'obtention d'informations sur l'empreinte carbone des dépenses militaires. Pour la reconversion de certaines industries d'armement et de leur personnel. Pour que la France soit observatrice lors des conférences des États signataires du traité international d'interdiction des armes nucléaires comme marque d'engagement en faveur d'un désarmement nucléaire universel.
Alors, vous m'attendiez? Pourquoi n'êtes-vous pas monté?
Vous savez bien que je ne fais pas de politique.
Ah oui, je sais.
Et d'ailleurs, je trouve que vous avez tous peur d'en faire. Vous courez tout droit à la catastrophe.
Mon ami Jean Diaz n'est pas de notre avis.
Ah non?
Ah, c'est vrai. Jean Diaz ne discute jamais.
Non, il accuse.
En effet, oui.
J'accuse. Mais qui accusez-vous?
Tout de même pas ceux qui ont gagné la guerre d'hier.
Pas
ceux qui l'ont gagné. Mais j'accuse la guerre d'hier d'avoir fait l'Europe d'aujourd'hui. Et j'accuse la guerre de demain de préparer l'anéantissement de l'Europe.
Mais permettez la guerre de demain.
J'accuse les hommes de n'avoir pas su tirer la leçon du gigantesque cataclysme et d'attendre les bras croisés qu'il recommence. J'accuse les négligents, les imprévoyants, les égoïstes d'avoir laissé l'Europe se diviser. Alors que le sang versé aurait dû créer une alliance européenne indissoluble. Et j'accuse les hommes d'aujourd'hui, non seulement de ne plus comprendre, mais de rigoler. Quand un homme comme moi vient leur rappeler la plus belle phrase qui existe sous le ciel, aimez-vous les uns les autres. Et j'accuse ces mêmes hommes dont vous êtes de n'avoir pas voulu entendre la voix des millions de morts de la guerre, qui n'a pas cessé de leur crier depuis 20 ans. Arrêtez-vous! Vous allez prendre le même effroyable chemin!
Mais ce chemin, nous ne l'avons pas suivi. Nous sommes même révoltés à l'idée qu'il pourrait y avoir une nouvelle guerre. Mais hélas, pour vivre, il faut lutter et vaincre.
Non! Pour vivre, il faut aimer.
Bravo! Tout ça ne change rien à cette vérité. La France cherche un homme!
Oui, mais le monde cherche un cœur.
Excusez-nous, c'est une... ce que vous avez entendu, c'est la version 1938 de J'accuse, interprétée par Victor Francène, que vous avez écouté, et qui annonçait, c'était en 1938, c'était 2 ans avant la Seconde Guerre mondiale, et Abel Gance...
Un an plus exactement. Oui. Elle a commencé en 39.
En 39, un an avant. Et il avait déjà fait le premier J'accuse, était pour qui annonçait la guerre de 14-18, qui a été commencé en 1918 et terminé en 1919. Il avait filmé vraiment les images que vous voyez dans ce film. C'est un film en noir et blanc. Et que je vous demande de pouvoir vous le procurer. La version 1918-1919 et celle de 38 avec Victor Francène, qui est un acteur fabuleux, même s'il était belge. Mais c'est quelqu'un qui a une expression dans le regard et dans la diction qui est formidable.
Et s'il a participé, c'est on ne peut pas participer à un film comme ça sans être soi-même pacifiste.
Là, c'est sûr.
Voilà. Un bon exemple à suivre.
Je vais vous lire un texte de Manar Bessa. Qui est tiré de notre journal du mois dernier, de mars. Le nucléaire et la guerre en Ukraine. En 1991, les pacifistes manifestaient contre la guerre du Golfe, une guerre pour le pétrole. En 2022, dans le conflit russo-ukrainien, est-ce que les antimilitaristes s'opposeront à une guerre pour le nucléaire? Le journaliste d'investigation Mark Handeveld, dans son livre « Guerre cachée, les dessous du conflit russo-ukrainien », écrit « En déclarant la guerre, Poutine ne souhaite pas seulement une démilitarisation de l'Ukraine, il entend également mettre le holà à la volonté de souveraineté énergétique du président Zelensky. Au-delà de la question de l'OTAN, le dossier nucléaire est un casus belli pour Vladimir Poutine. » Voilà, le dossier nucléaire. Pourquoi le dossier du nucléaire est-il un sujet aussi important dans la guerre de la Russie contre l'Ukraine? Mark Handeveld nous l'explique en abordant un sujet qui reste encore très sensible pour toutes les puissances nucléarisées. En effet, l'Ukraine était, au temps de l'Union soviétique, la troisième puissance nucléaire mondiale après la Russie et les États-Unis. Elle possédait 1900 ogives, 176 missiles intercontinentaux, 44 bombardiers stratégiques avec 700 missiles, 2000 armes nucléaires. Combien de champignons ça donnerait? En 1994, le pays a accepté de livrer à la Russie tout son arsenal. Ça, je ne savais pas. C'est à cette date que le mémorandum de Budapest a été signé. En acceptant de se défaire de l'arsenal soviétique, chose faite en 1996, et de rejoindre le traité de non-prolifération qui vise à réduire le risque que l'arme nucléaire se répande à travers le monde. L'Ukraine obtient de la Russie, des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Chine et de la France des garanties sur sa sécurité, son indépendance et son intégrité territoriale, précise Mark Handeveld. En 2014, la guerre du Donbass éclate. Mark Handeveld écrit « Dès mars 2014, Volodymyr Orysko, ancien ministre des Affaires étrangères, fait valoir publiquement que l'Ukraine a désormais le droit moral et légal de rétablir son statut nucléaire. Un sondage dans la foulée montre que près de la moitié des Ukrainiens souhaitent un réarmement nucléaire. » Ils ont dû trafiquer le sondage. L'Ukraine cherche alors à se libérer de la tutelle de Moscou sur son industrie nucléaire. Elle se tourne vers les États-Unis pour qu'ils prennent le relais de sa filière électronucléaire avec la société Westinghouse. En août 2021, un accord de coopération américano-ukrainien prévoit la création par Westinghouse d'usines de fabrication de combustible nucléaire à Skidzhniz. Un mois plus tard, un protocole d'accord représentant potentiellement 30 milliards de dollars de contrats est signé par la firme américaine et Energoatom, société ukrainienne, pour la construction de 4 réacteurs AP1000 en Ukraine. Et en novembre, un nouveau contrat est signé pour la réalisation à Khmelnytskyi de 2 réacteurs AP1000 pour 10 milliards de dollars. Poutine perçoit cela comme un affront et une menace pour la Russie. En effet, avec Rosatom, leader mondial du combustible nucléaire, la Russie veut garder la haute main sur les centrales ukrainiennes. Mark Handeveld écrit « Vladimir Poutine, dans une allocution où il reconnaît l'indépendance des républiques du Donbass, déclare « Nous avons entendu dire que l'Ukraine voulait se doter de l'arme nucléaire. Pour l'Ukraine, cela procurer sera facile, d'autant plus s'il est aidé par l'étranger. Nous ne pouvons pas laisser ce danger réel sans réaction. Plus que sur l'OTAN ou sur la question du Donbass, les accusations de Poutine porte sur le risque de prolifération nucléaire. L'auteur le rappelle, les Ukrainiens comptent de nombreux scientifiques et disposent de vraies capacités industrielles en matière de construction de missiles qui pourraient à terme servir à porter des charges nucléaires. De plus, le réseau électrique ukrainien dépend en grande partie du nucléaire. Aidé par la société Westinghouse, l'Ukraine décide de déconnecter son réseau électrique du réseau russe et commence à se connecter au réseau européen. Mark Endeveld précise, à peine 4 heures après la déconnexion du réseau électrique ukrainien du réseau russe, les troupes russes franchissent les frontières de l'Ukraine. Même si l'invasion était, quoi qu'il en soit, programmée, ce nouvel épisode le prouve, Moscou entend garder la haute main sur le système électrique ukrainien. Et il ajoute, dès le début de l'invasion, la Russie fait du contrôle des principales infrastructures énergétiques et notamment les centrales nucléaires une priorité. L'occupation de la centrale de Tchernobyl avec ses déchets nucléaires dès le début de la guerre, puis de la centrale Zaporijja, la plus grande d'Europe, qui fournit parfois en électricité la Russie, et enfin la destruction systématique des infrastructures électriques de l'Ukraine, prouve que Poutine ne veut rien lâcher sur l'industrie nucléaire ukrainienne. Le nucléaire est donc bien un enjeu de la guerre russo-ukrainienne pour la défense de cette industrie, des civils et des soldats meurent tous les jours. Mark Endeveld conclut, l'Europe apparaît plus impuissante que jamais face à ce conflit survenu à ses portes. Le réarmement se fait dans la précipitation, et pour la plus grande satisfaction des industriels américains. Je connaissais Westinghouse, mais c'était plutôt dans les frigos plutôt que dans le nucléaire, comme quoi la diversité rapporte.
Alors, pour compléter, la suite des essais nucléaires, l'article commence à lire jeudi dernier. Enfin, je veux dire, j'ai dit du mois précédent, excusez-moi, c'est l'émotion. La zone d'essais nucléaires atmosphérique de Amoudia, 13 février 1960, 25 avril 1961. L'implantation du Centre saharien d'expérimentation militaire CSEM sur une zone de 108 000 km² fut décidée au début de l'année 1957. Ce site va accueillir en plein désert une véritable petite ville, Reaganville, comportant pistes d'aviation, hôpital, station de pompage d'eau pour une production de 1200 m3 par jour, bâtiments administratifs et logements, etc. Une base vie dite Reagan Plateau, à 12 km à l'est de la ville de Reagan, principalement constituée de baraquements, d'une piscine, d'un poste de commandement militaire d'où les ordres de tir sont donnés et d'un bâtiment du commissariat à l'énergie atomique où est recueilli l'ensemble des informations liées à l'essai nucléaire. Une partie des installations est souterraine, creusée au cœur de la falaise. La base de Amoudia, qui comporte une centrale électrique, mais essentiellement des bureaux et installations techniques, des installations de décontamination et différents baraquements. Source rapport confidentiel défense. À une dizaine de kilomètres se trouve le polygone de tir. Les 4 essais nucléaires atmosphériques, gerboise bleue, blanche, rouge, verte, ont provoqué des dépôts de particules radioactives dans le désert du Sahara, mais aussi, comme il a été révélé en 2014 dans Le Parisien, le document choc sur la bomba en Algérie du 14 février 2014, dans toute l'Afrique du Nord et même subsaharienne. En fait, même le continent européen fut touché, puisque 13 jours après le premier essai nucléaire, 13 avril 1960, des retombées radioactives ont atteint la côte espagnole et des particules chaudes dans les précipitations et dans l'air au sud-ouest de la Suède. ont également été détectés au début du mois de mars 1960. Le premier essai nucléaire, Cherboise Bleu, 13 février 1960, avait pour but principal de valider la bombe française. Mais cette expérience devait aussi permettre d'observer et de vérifier le comportement devant les effets de souffle et de chaleur de nombreux matériels utilisés par les différentes armées. Selon un témoin, les trois armées ont réparti du matériel sur la zone d'essai. On trouvait sur la zone terre des mannequins, des chars, des véhicules blindés de toute nature, des canons. Sur la zone air, des avions prêts au décollage ou parqués derrière des monticules de sable. Sur la zone mer, des superstructures de navires de guerre avec leurs tourelles et leurs canons. Nous retrouvons cette liste dans le rapport confidentiel défense. Ce positionnement de matériel fut réalisé pour chacun des quatre essais nucléaires atmosphériques. Alors, voici la liste de matériel soumis aux effets de la première bombe atomique française. Alors, expérimentation sur les matériels militaires, essais militaires. Les essais à effectuer au cours de la première explosion sont limités à ceux nécessaires à la préparation des explosions ultérieures et à ceux estimés extrêmement urgents. Les principaux matériels, ouvrages ou animaux exposés ou expérimentés sont les suivants. Alors, pour l'armée de terre, 10 pièces d'artillerie du 57 US au 55 MIE 195C, 32 véhicules blindés ou non, des postes radio et du matériel téléphonique, des matériels, armes, équipements divers, des mines, des vivres, des éléments de tranchée, des épurateurs d'eau. Pour la marine, un élément de superstructure, des éléments de surface métallique protégés par diverses peintures marines, deux roquettes inertes avec leur système de lancement. Pour l'armée de l'air, 5 abris à personnel, 2 abris avions, 4 avions ou parties d'avions. En quatrième position, service de santé. Alors, tenez-vous bien, 16 groupes de petits animaux, rats, souris, cobayes. 12 grands animaux, chèvres, porcs, des produits biologiques, des dosimètres personnels. Ne me demandez pas ce que c'est. Et suivi de la photo où c'est la photo d'un char. Alors, une double photo. Alors, la première photo, avant l'essai, donc il est bien debout. La photo d'après, après le souffle. Alors, non seulement il est renversé sur le côté, mais il est tout noir.
Oui, il a été brûlé par le...
Oui, complètement carbonisé, oui. Il n'est pas en cendres, mais
Il est tordu, comme si on l'avait tordu par aller avec les mains.
Oui, oui.
C'est un chat.
Oui, oui. Désolée, c'est l'émotion, ça me crée ça. Ne craignez rien, ce n'est pas contagieux. Le second essai nucléaire, Gerboise Blanche, 1er avril 1960, a provoqué une contamination importante, comme en témoigne le général Elleret. L'engin étant placé sur un socle en béton, il avait lieu de s'attendre à la formation d'un assez important cratère et à une très forte contamination par des retombées de particules lourdes des environs dudit cratère. Témoignage de l'aventure atomique française par le dit Charles Elleret, Paris édition Grasset 1968. À noter également, comme lors du troisième essai, Gerboise Rouge, 27 décembre 1960, la présence d'animaux vivants, un millier de rats et de souris et quelques chèvres placés autour du point zéro pour voir comment ils ont résisté à l'épreuve. Les examens portant surtout sur l'état de leurs cellules sanguines. Alors, là, citation, le journal Le Monde, les animaux soumis aux effets des radiations vont être examinés dans la région parisienne, 31 décembre 1960. Lors de l'explosion de Gerboise Verte, 25 avril 1961, on alla jusqu'à simuler une guerre nucléaire. Juste après l'explosion, des manœuvres en char, mais aussi à pied, ont été organisées à proximité du point zéro pour tester les matériels de protection, mais aussi et surtout connaître les réactions des hommes de troupes dans une ambiance fortement radioactive. Ils sont complètement malades, mais alors complètement malades. 195 hommes furent ainsi volontairement exposés aux retombées radioactives. Les fous, c'est complètement dingue. En plus de ces essais nucléaires, des expérimentations nucléaires complémentaires avec dispersion de plutonium furent réalisées, mais sans provoquer de dégagement d'énergie nucléaire. Ce sont les expériences dites Ogias et Pollen. 35 expériences Ogias ont été réalisées sur le site de Gerboise Rouge entre 1961 et 63, utilisant chacune une quantité maximum de 25 grammes de plutonium. 12 expériences furent réalisées dans des cuves en acier, afin de pouvoir éventuellement récupérer le plutonium de la première série. Citation venant d'un rapport secret défense. Une première série de 6 expériences fut effectuée du 28 avril au 7 mai 61 en remplissant les cuves à moitié de sable, puis en y posant un couvercle fermé. Dans la seconde série, du 14 avril au 28 avril 62, il est cette fois indiqué que le sable fut remplacé par du carbonate de sodium pour théoriquement mieux récupérer le plutonium. L'utilisation des termes « éventuellement » et « théoriquement » s'est avérée particulièrement appropriée étant donné que ces cuves ont été tout simplement enterrées. Les dingues. 23 expérimentations ont été réalisées du 21 avril au 14 mai 1963 en plein air sur un tabouret au-dessus d'un trou préalablement creusé dans le sol vers lequel était projeté le plutonium. 5 expériences pollen rose, rouge, safran, jonquille ont été réalisées entre 1964 et 1966 sur le site de CEMO, pardon pour la prononciation, au nord-ouest du massif de Taourirt, Tan Ataram. Cette fois, avec des quantités de plutonium allant de 20 à 200 grammes. L'objectif, comme le rapporte l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA, était de simuler un accident impliquant du plutonium pour mesurer ses conséquences, y compris le degré de contamination qui pourrait survenir à proximité. Ces essais avaient donc comme fonction de vérifier d'une part comment se comportait une arme nucléaire sans que son mécanisme de réaction en chaîne ne se mette en action et d'autre part de vérifier quelles étaient les réactions entre matière nucléaire et explosifs conventionnels ainsi que le processus de dispersion de ces différentes matières. Les catastrophes nucléaires militaires de Palomares en Espagne, 17 janvier 1966, ou de Thule au Groenland, le 21 janvier 68, avec des quantités de matière radioactive beaucoup plus importantes, ont reproduit ce type d'expérience. Les zones d'essais nucléaires souterraines de Inn Eker, 7 novembre 61, 17 février 66. Le Centre d'expérimentation militaire des Oasis, CEMO, site de réalisation de 13 essais nucléaires souterrains et aménagés dans le massif du Hogar, dans la montagne granitique du Tan Afela, à proximité du Borj de Inn Eker, situé à 150 km au nord de Tamanrasset. Le personnel est logé dans une base-vie située à 30 km au sud d'Inn Eker, dite Oasis 1, puis un second site, Oasis 2, sera construit à 10 km au sud d'Inn Eker. Les essais sont conduits dans des galeries creusées en colimaçon d'une profondeur de 800 à 1200 mètres. Date 7 novembre 1961. Essais nucléaires souterrains nom de code Agathe, puissance en kilotonnes de TNT, 10. 1er mai 1962, essai nucléaire souterrain Béryl, 40 kilotonnes. 18 mars 1963, essai nucléaire souterrain Émeraude, puissance 10 kilotonnes. 30 mars 1963, Améthyste, 2 kilotonnes 5. 20 octobre 1963, Ruby, 52 kilotonnes. 14 février 1964, Opal, 3 kilotonnes. 15 juin 1964, Topaz, 2 kilotonnes 5. 28 novembre 1964, Turquoise, 10 kilotonnes. 27 février 1965, Saphir Monique, 127 kilotonnes. 30 mai 1965, Jade, 2 kilotonnes 5. 1er octobre 1965, Corindon, 2 kilotonnes 5. 1er décembre 1965, Tourmaline, 10 kilotonnes. 16 février 1966, Grenat, 13 kilotonnes. À titre personnel, je trouve ça honteux de donner des noms de pierres précieuses. C'est dégueulasse.
Et des fois, ils donnent des noms aussi féminins.
L'exemple, la saphir, ouais. / Monique. Mais,
honteux.
Non mais sérieux là. La montagne du Tanafela est devenue un véritable gruyère, creusée de toutes parts pour réaliser les 13 essais nucléaires souterrains. 4 essais, Béryl, Améthyste, Ruby, Jade, n'ont pas été totalement contenus ou confinés, entraînant la libération dans l'environnement de gaz aérosols et de lave radioactive. Bravo, 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 bravo.
C'était déjà de Tchernobyl avant Tchernobyl.
Oui, et si ça se trouve, les... Ben là, lave radioactive, ça serait pas étonnant que les
nappes phréatiques.
À l'école, on nous passait souvent le documentaire sur les tremblements de terre et les volcans. On remarquait que ces tremblements de terre, si comme par hasard, c'était dans les pays pauvres que ça se déclenchait. Essentiellement. Et forcément, si c'est là où il y a eu... ça touche les zones où il y a eu des essais nucléaires. Alors forcément, réaction, voilà. C'est eux qui ont provoqué tout ça.
Et comme il y a des vibrations... Ça s'étale dans tous les sens. Si oui. Ça touche une faille sismique.
La preuve, c'est là. Voilà. Écrit noir sur blanc. Je l'invente pas.
On connaît la médecine chinoise qui met sur le corps des aiguilles.
Oui, l'acupuncture.
Essais nucléaires, c'est une acupuncture pour déclencher des séismes volcaniques.
Oui. L'accident Béryl du 1er mai 1962 fut le plus important accident en termes de contamination des sols et du personnel. Nous disposons désormais d'informations précises et bien documentées grâce aux nombreux témoignages recueillis par l'Observatoire des armements en lien avec l'Association des vétérans des essais nucléaires, AVEN. Vers 12h30, nous entendons un immense boom en face de nous. Très beau spectacle immédiat, la montagne change de couleur, elle est transparente, mais tout de suite, presque en face de nous, à droite, nous voyons un bouchon qui part accompagné d'une fumée très noire. Alors, c'est un extrait du témoignage de Jean-Pierre P., lettre datée du 2 février 2004, de l'archive de l'Observatoire des armements. Une chose que j'ai oublié de mentionner, Christiane Taubira a présenté le rapport 1264 sur la proposition de loi numéro 1258 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais ou accidents nucléaires. Le 19 novembre 2008 à l'Assemblée nationale. Un ensemble de données portant sur la pollution engendrée par cet essai souterrain qui déboucha sur un essai atmosphérique est disponible. Ainsi, citation, une fraction égale à 5 à 10% de la radioactivité est sortie par la galerie sous forme de lave et de scories projetées qui se sont solidifiées sur le carreau de la galerie. La quantité de lave et de scories serait d'environ 700 mètres cubes qui se seraient solidifiés à la sortie de la galerie dite E2. Selon ces mêmes données, la zone la plus radioactive représente une superficie d'environ 2,5 hectares. La contamination est fixée dans des laves, épaisseur moyenne d'écoulée 40 cm et dans des blocs de scories. Mais cette pollution s'est étendue sur une zone intermédiaire jonchée de fragments de lave et de scories sur une superficie d'environ 15 hectares et sur une troisième, plus vaste de 135 hectares, comprenant des débris de scories peu volumineux ou, selon les données prélevées de 1965, donc 3 ans après le tir, l'activité radiologique se serait affaiblie très fortement. Si cela reste à vérifier sur site, ce rapport note bien que l'activité piégée dans les laves et les scories d'environ 5000 CI en 1962 peut être estimée à 25 CI de plutonium en 1994 et à une centaine de CI de césium-137 et de strontium-90. Elle est très localisée dans une zone de quelques hectares sur le carreau E2 et à son voisinage. Ces chiffres sont monstrueux en termes de pollution radioactive et de dangerosité. Mon Dieu. Il y a une carte représentant le massif de Tanafela avec des zones des essais nucléaires souterrains. Hélas, je ne peux pas vous la décrire parce que c'est quelque chose à voir. Mais c'est pas joli. C'est très moche. Alors, autant passer au reste du texte. Le ministère de la Défense a également reconnu que l'essai améthyste, 30 mars 1963, avait libéré de la montagne, par la galerie E3 creusée pour placer la bombe, une grande quantité de scories et de roches fondues. Les associations de victimes algériennes en manque de reconnaissance. À Alger, ce 24 janvier 2020, à l'occasion du 49e vendredi du Irak. Alors, juste pour info, Irak, H-I-R-A-K, mot arabe qui signifie mouvement. Ce mouvement a débuté le 16 février 2019 pour protester contre la candidature du président Abdelaziz Bouteflika à un cinquième mandat présidentiel. Ces manifestants brandissent des écriteaux sur lesquels sont inscrits « Les habitants du Sahara ne sont pas des cobayes, non au gaz de schiste, gouvernement de la bande, vous n'êtes pas différent de la France et ce qu'elle a commis à Reagan. » Ou encore « En 2020, ils veulent essayer la charboise noire en exploitant le gaz de schiste. » La mémoire des conséquences des essais nucléaires reste vive en Algérie. Pourtant, les associations de victimes peinent à obtenir des réponses concrètes à leurs revendications. Et il ne faut pas s'étonner si les Algériens nous en veulent. Franchement, ouvrons les yeux. Je comprends leur rancune. Je comprends pourquoi ils nous en veulent. Qui leur demande pardon? Qui? Au début des années 2000, comme en métropole ou en Polynésie, plusieurs associations voient le jour en Algérie. Il s'agit notamment de l'association 13 février 1960 à Reagan, l'association des victimes des essais nucléaires à Taourirt à Inn Eker, fondée en 2011, et l'association algérienne des victimes des essais nucléaires à l'initiative de M. Benjebar, un officier algérien qui a procédé à la fermeture des sites d'essais français et s'est retrouvé à la suite gravement malade.
Ben, contaminé,
oui,
bien sûr.
Oui, 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 bien sûr. Bien sûr, il était sur une zone radioactive. Alors.
Ah ben, il a dû avoir les cheveux verts.
Des liens se sont établis entre les différentes associations algériennes et françaises, malgré les entraves liées à l'éloignement et à la difficulté des échanges directs. À l'occasion de plusieurs colloques organisés par l'Observatoire des armements à Paris, notamment à l'Assemblée nationale et au Sénat, l'ambassade de France a refusé de délivrer des visas pour les intervenants algériens.
Ils ont eu peur pour eux.
Les associations tentent de mobiliser les autorités politiques malgré le peu d'écoute. Elles réalisent également un travail d'information et de recensement des victimes. Elles demandent réparation à la France pour les dégâts qu'elle a commis. Leurs principales revendications sont mise en place d'un observatoire des sites ayant servi aux essais nucléaires pour mesurer l'évolution de la réactivité, l'évolution de la radioactivité. Des contaminations des sols et des nappes souterraines dont la présence de la radioactivité représente une bombe à retardement pour la santé publique. Création d'une structure de santé spécialisée dans le traitement des maladies radio-induites proches des zones impactées pour éviter les déplacements des victimes vers Alger, ce 1500 km. Transmission des archives secret défense et ouverture d'un centre de mémoire. La loi de reconnaissance et d'indemnisation adoptée par la France en 2010 a été rejetée pour son insuffisance. Ce n'est pas avec quelques sous que nous résoudrons un problème qui touche plusieurs générations d'affilée. Déclarait en février 2010 Monsieur El Abderrahman, président de l'association du 13 février 1960. Pour H.M. Vaher, président de l'association de Taourirt, la reconnaissance par la France du statut de victime à environ 500 ouvriers de la région recensée est la priorité, car les retombées nucléaires radioactives des essais n'ont épargné personne, ni l'humain, ni la faune, ni la flore. Au-delà de l'Algérie, toute l'Afrique du Nord et le Sub-Sahara ont été victimes d'une politique nucléaire dont la France nie la responsabilité et les séquelles. Là.
Et sa sœur.
Extrait cité, essai nucléaire, l'Algérie a ficelé le dossier. Elvatan, 16 février 2018. D'autres acteurs tentent de faire avancer ce sujet. Ainsi, l'hôpital de Reagan a plusieurs fois alerté les autorités publiques et organise des événements avec l'association El Amel, pour alerter des difficultés, notamment le 13 février, jour anniversaire du premier essai nucléaire français. Alors, cette action est réalisée conjointement par la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l'homme et l'association El Amel du CPMC. Cette caravane, depuis 2011, réalise un travail de prévention et d'information sur le cancer et a obtenu dès 2012 la mise en place, chaque année pour le 13 février, d'un cours national sur les essais nucléaires par le ministère de l'Éducation nationale. Je vous prie de m'excuser, ça me prend à la gorge, je suis désolée. La Ligue algérienne des droits de l'homme, LADDH, engagée également aux côtés de ces associations, est persuadée que les victimes des explosions nucléaires de la France au Sahara algérien n'ont pas besoin qu'on parle d'eux uniquement chaque février. Les difficultés de ces organisations algériennes à faire émerger dans l'agenda politique la question des conséquences des essais nucléaires est sans aucun doute une des raisons qui fait que 60 ans après le premier essai nucléaire français, un seul Algérien a été reconnu comme victime et indemnisé à ce titre par la France. Un seul Algérien. Alors, merci Monsieur Macron de vouloir faire le rapprochement France-Algérie, mais commencez par les. Vous faites ça, d'accord, c'est bien, mais vous pensez à reconnaître ce qui vient d'être cité là. Est-ce que vous pensez à le faire? Non, je ne pense pas, je ne crois pas. Vous pensez que resserrer les liens, qu'ils vont nous pardonner tout ça? Non, ils vont pas nous pardonner. Ils attendent. C'est pas suffisant ce que vous faites. C'est pas suffisant. Non, vous donnez une illusion, des illusions. Voilà ce que vous donnez. Mais
de toute façon, ça,
c'est dégueulasse. Vous êtes dégueulasse. Voilà.
Son quinquennat et le précédent, ce n'est que illusoire. C'est un fasciste, plus fasciste que Le Pen. Excusez-moi.
Oui. Non, mais c'est vrai. Voilà. Bah, il faut dire, pour citer la situation, appelons un chat, mm-hmm. Et ben c'est ça.
Vous qui méprisez la jeunesse, vous qui ne savez l'écouter, vous qui ne voyez que les fesses des filles et passez à côté de ce qu'elles ont dans la cervelle, sous leur chevelure mal peignée, se foutant de paraître belle à votre propre désignée. Halte au con. Vous qui qualifiez de loubards tous les taggers et les rappeurs, et pire encore quand ils sont noirs, vous qui souvent en avez peur sans que jamais dans votre tête vous n'entachiez d'un moindre doute cette certitude simplette d'avoir choisi la bonne route. Mort au con. Vous auriez pu imaginer que s'ils se mettent à l'écart de votre monde suranné en vous qualifiant de ringard, c'est peut-être de votre faute. N'en avez-vous la moindre idée? Et votre morale, s'ils la sautent, qu'avez-vous fait pour les aider? Pauvre con. Vous qui vous mettez des œillères pour ne pas voir les sans-logis et dans des oreilles des pierres pour ne pas entendre les cris des torturés, des isolés, des victimes de toutes les guerres, enfants tués, femmes violées, familles expulsées de leur terre. Honte aux cons. Vous qui mettez dans le même sac drogués, homos, gitans, poètes, et appréhendez leurs attaques quand ils redressent un peu la tête, vous qui vous donnez bonne conscience en pratiquant dans vos églises le culte de l'intolérance sans voir les couteaux qui s'aiguisent. Mort au con. Vous qui méprisez la sagesse de ceux qui possèdent un passé, ceux qui prolongent leur jeunesse sans jamais vouloir l'oublier, vous qui croyez qu'après 30 ans c'en est fini de la gamberge, qui ignorez qu'à 60 ans on peut être plus jeune qu'à 20 berges. Pauvre con! Vous ne mettez pas en question ce piètre confort imbécile d'un petit bonheur sous gestion d'une imagination stérile. Vous êtes des clones de milliers de pauvres cons sur la planète pour qui seuls comptent les billets qu'ils entassent dans leur cachette. Honte aux cons! Halte aux cons!
Eh bien, M. Michel Valette, à l'époque, eh ben, il est toujours d'actualité. Voilà. Et c'était un grand ami, notre ami Gérard Durand, à qui nous reprenons tous les mois son créneau. Maintenant, je vais vous passer le programme des activités de Publico qui vont se dérouler ce mois d'avril.
Ce tout début du mois d'avril correspondait donc au début d'un mois d'avril qui est consacré par la Fédération anarchiste et au-delà, mais on concentre un peu nos efforts, un certain nombre de programmations sur ce mois d'avril anti-nucléaire. Et donc il y avait un premier week-end. Les gens qui étaient présents à Marseille ont eu la chance en primeur de découvrir le magnifique dossier du Monde Liberté à consacrer au nucléaire. Et à son monde, ce monde dont nous ne voulons pas, assurément. Et puis, il va y avoir d'autres événements qui vont se greffer là-dessus. À Paris et plus particulièrement à la librairie Publico, d'ici la fin du mois. J'en donne quelques exemples, si ma machine accepte de s'ouvrir. Il y a d'autres animations auparavant à Publico sur lesquelles je vais revenir, mais puisqu'on est parti sur cette programmation anti-nucléaire. Donc ça commencera à Librairie Publico le mercredi 19 avril à 20h, donc dans le cadre de cette campagne antinucléaire de la Fédération anarchiste. C'est l'Université populaire et libertaire du 11e arrondissement commune de Paris, dans le cadre de son animation Ciné de la Commune, qui vous proposera un documentaire de Catherine Fumet et François Guerouet, « Notre terre mourra proprement ». Il y a un brin d'ironie dans le titre, puisque c'est l'histoire de la lutte contre les déchets nucléaires et les tentatives de l'ANDRA pour trouver des sites d'enfouissement un peu partout en France. Le dernier, la plupart de ces tentatives ont échoué, mais le dernier en date, l'histoire n'est pas dite, puisque ça se passe à Bure et qu'il y a des luttes pour que ça ne se passe pas là. Mais l'action est difficile de ce côté-là. La réaction est rude, en tout cas. Tout à la fin du mois, on retrouvera des intervenants qui étaient à Marseille. Et donc, notamment, on pourra voir à nouveau le film de Kenichi Watanabe qui s'appelle Notre ami l'atome, un film d'une heure qui sera diffusé le jeudi 27 avril à 19h30 à la librairie Publico. On le sait, Kenichi Watanabe est un cinéaste documentariste japonais. Il vit et travaille en France depuis de nombreuses années. Et il est l'auteur, entre autres, de plusieurs films consacrés au nucléaire. Donc, je pourrais citer en 2013 Le Monde après Fukushima, dont le commentaire a été coécrit avec Michael Ferrier. Et puis Terre nucléaire en 2015, Une histoire du plutonium, là aussi avec un commentaire écrit par Michael Ferrier. Donc ça, ce sera le 27 avril à 19h30 à Publico. Notre ami l'atome, le film de Kenichi Watanabe. Dans cette fin de semaine d'avril, le lendemain, le 28 avril à 19h30, ce sera une rencontre débat avec Jean-Marc Royer, qui lui aussi était présent à Marseille. Je rappelle que Jean-Marc Royer, l'auteur d'un appel intitulé « Hiroshima, Tchernobyl, Fukushima, des crimes contre l'humanité ». Et il est aussi l'auteur d'un livre très important qui s'appelle « Le monde comme projet Manhattan, des laboratoires du nucléaire à la guerre généralisée aux vivants », publié en 2019. Il viendra donc nous parler de la manière dont ce projet états-unien d'élaboration de l'arme nucléaire est bien plus qu'un projet d'élaboration d'une arme de plus, fût-elle aussi destructrice. Et puis pour clore ce week-end, le dimanche 30 avril à Publico, et ce sera à 16h, nous aurons une rencontre débat avec Thierry Ribaud, lui aussi présent à Marseille, autour du concept de résilience, auquel s'intéresse beaucoup Thierry Ribaud, qui est chercheur en sciences sociales au laboratoire Clercé du CNRS à l'Université de Lille. Il a beaucoup séjourné au Japon. Et il a particulièrement étudié la manière dont les autorités japonaises ont fait en sorte d'obtenir le consentement social au désastre de Fukushima auprès des populations, en utilisant ce terme, ce principe de résilience. Donc il nous en parlera le 30 avril à Publico. Ce sera à 16h, je rappelle. Que Publico, c'est 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement, métro République, Oberkampf ou Fille du Calvaire. On a appris ce matin la disparition du musicien japonais Ryuichi Sakamoto, qui était un grand compositeur de musique de film. C'est lui qui avait écrit la musique de Furio, notamment, et d'un film de Bernardo Bertolucci, dont j'ai oublié le titre. Et c'était quelqu'un de tout à fait engagé contre le nucléaire au Japon et ailleurs. Et puisqu'on est toujours dans le nucléaire, il y a aussi des choses qui se passent du côté de Rouen, Serge.
Oui, donc le titre, c'est « Regard noir d'un technicien EDF sur le nucléaire et son monde ». C'est de très intéressant parce que c'est à la fois un éclairage de l'intérieur, si je puis dire, comment ça se passe à l'intérieur central, mais c'est aussi un éclairage intérieur, comment réagissent les gens qui travaillent, qui quelque part savent que c'est dangereux et qui affichent en fait que dire mais non, pas du tout. Enfin, il y a toute une contradiction extrêmement intéressante à comprendre.
Et donc ce sera ce samedi 8 avril à 14h30 à Rouen, à la Maison des Associations et de la Solidarité, 22 bis rue Dumont-d'Urville, à Rouen, Théor 1-2-3, Station Pasteur. Et donc, samedi prochain, le 8 avril, à Publico, à 16h, on pourra écouter en concert Fanchon Damers, pour un concert qui s'appelle Terre Libre, et elle chantera des textes de Raoul Van Eghem. Ce sera donc une rebelle qui chante un rebelle. Et c'est donc ça, c'était dans le cadre du mois de mars féministe. 13 avril, une rencontre très intéressante aussi, ce sera à 19h à Publico, et il y aura une rencontre, débat avec des camarades anarchistes brésiliens. Donc après leur participation au congrès de l'IFA, International des Fédérations Anarchistes en Italie, où nous saluons notre camarade et compagnon Federico, des compagnons de l'IFA BR Brésil, donc Iniciativa Federalista Anarchista Brasil, seront de passage à Publico dans le cadre d'une journée européenne pour nous faire connaître les luttes actuelles de l'IFA Brésil et pour informer, et eux pour s'informer sur nos luttes, il y en a, dans l'Hexagone. Voilà, donc ça promet d'être un échange d'expériences solidaires tout à fait exceptionnel et intéressant. Et donc, Publico et tous ceux qui travaillent à la librairie vous convient à cet échange de groupes et de militants le jeudi 13 avril à 19h.
Merci à l'équipe de Publico de nous donner des informations de ce qui se passe à la librairie. Voilà. Je vais vous donner une annonce aussi. Vous avez le temps pour pouvoir prendre vos places. Nathalie Solance, qui est une habituée de Radio Libertaire et qui vient souvent, qui venait à l'émission de Marlène, auquel Pascal Loquet a succédé pour juste une chanson. Là. Faites-nous des chansons maintenant, à titre de Anne Sylvestre. Alors, elle sort un nouvel album. Il y aura 13 titres, 13 textes de Nathalie Solance et il y aura 13 musiciens. L'album s'appelle Comment te dire et on peut l'avoir en direct, et là vous pouvez acheter le disque en même temps, le dimanche 30 avril 2023 à 16h au théâtre La Camilienne, 12 rue des Meuniers, à Paris 12e, métro Porte de Charenton. Si vous voulez faire des réservations, il y a vous pouvez écrire Tournezinc en un seul mot, TOURNEZIC @orange.fr ou appeler le 09 64 43 59 77. Je répète, 09 64 43 59-77. Trois prix en entrée, des places à 10€, 12€ et 15€. Donc, vous avez ce sera le dimanche 30 avril à 16h. Donc, comme aujourd'hui nous sommes le 6, vous avez largement le temps de prendre vos places et ce sera très bien que si on pouvait remplir tout le théâtre pour le nouvel album de Nathalie Solance, qui sera accompagné bien sûr Patricia Hu au piano, Claude Guen, son compagnon, à la guitare, Véronique Papillon au violon, Jean-Paul Bataillet aux percussions, Jean-Pierre Echeldinger à l'accordéon, Anne Gouraud-Schretra à la contrebasse et quelques cerises surprises sur le gâteau. Et Nathalie Solance a fait un petit mot pour annoncer son album. J'ai la joie de vous annoncer la sortie de mon nouvel album et le concert qui le présentera. Nouvel album, nouvelle chanson, nouvelle casquette d'arrangeuse. Pour la plupart des 13 chansons qui le composent, 13 chansons, 13 musiciens, ingénieurs du son, chanteurs, instrumentiste, ami de longue date ou de nouveaux amis, nouvelle voix, garantie sans produits chimiques, nouveau théâtre à remplir. Au plaisir de vous retrouver le dimanche 30 avril 2023. Voilà. Sur ce message, je vais envoyer une émission de Yves pour Jazz Yves. Il est malheureusement absent parce qu'il est un petit peu malade et Laurence son technicien n'était pas disponible pour venir. Donc je vais vous envoyer son émission qui m'a envoyé pour vous le faire écouter. Vous en avez 2h30 de jazz et de bonne musique. On vous remercie de l'écoute et à très bientôt.
À très bientôt et mutinez-vous.
Oui. Et lâchez pas la patate, surtout pas. Il y a un petit problème. Il y a un petit problème, mais il faut que je reconnecte avec le USB pour le programme. Vous allez avoir un petit peu une bande sans fin qui va apparaître le temps que je remplace tout. Excusez-nous.